changer de salle pour que ce soit plus aéré, ça c'est très bien. Pour que ce soit sonorisé, mais j'ai pas l'impression que la technique a suivi. Alors, vous me direz quand même si j'arrive à parler assez fort. Oui, mais bon. Je suppose que certains d'entre vous n'étaient pas là hier matin. En tout cas, je vais en quelques phrases essayer de résumer la première étude que nous avons eue. D'abord, l'intitulé Amispet Birushalayim, ce qui signifie le deuil à Jérusalem. C'est un texte que le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen, le père, Zichrono Livracha, à quel mes célèbres, a écrit. De toute façon, je veux essayer de récapituler très rapidement ce que nous avons déjà abordé hier matin. Alors, je vous rappelle d'abord l'intitulé de ce texte, Amisped Birushalayim. Le mot de Misped renvoie à l'oraison funèbre pendant un deuil. Et le Rav Kook, il s'agit du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Zichrono Livracha, le père du Rav Kook, qui a été mon maître, dont j'étais l'élève. Et il a écrit ce texte, il y a donc assez très longtemps, avant l'existence de l'État d'Israël, pour le premier anniversaire de la mort de Herzl. Dans ce texte, le Rav Kook met en forme, de façon extrêmement organisée, comme vous allez le voir par vous-même déjà depuis hier, un certain nombre de sources concernant la définition des fonctions de la messianité selon la tradition juive. Nous avons eu déjà hier un certain nombre d'analyses de délimitation du sujet, et en particulier le fait de nous faire découvrir que pour la tradition juive, à travers les sources du Talmud et aussi de la Kabbalah, mais ce sont surtout les sources talmudiques que le Rav nous donne dans ce texte, il y a deux lignées messianiques. Celle qui s'appelle la lignée du Mashiach ben Yosef et celle qui s'appelle la lignée du Mashiach ben David. Cela nous renvoie à l'identité fondamentale de deux des tribus d'Israël. La lignée de Joseph finalement s'exprime dans deux tribus qui sont Ephraïm et Manaché. Et la tribu principale, celle qui par la suite, après le schisme, après le règne du roi Salomon, nous allons d'ailleurs revenir sur ce point, a constitué la tribu de la royauté du royaume du Nord qui s'appelait le royaume d'Israël. Alors que la tribu de Juda, elle, était la tribu royale qui venait du royaume du Sud, qui groupait deux tribus ennemies, comme vous le savez, Juda, Benjamin, la moitié de la tribu de Menaché, la tribu de Lévi s'étant répartie entre les deux royaumes. Et le Rav nous a donné un principe d'explication. De même qu'à l'échelle de l'identité individuelle, nous sommes insérés simultanément au niveau de la même personne humaine dans deux mondes apparemment différents qui renvoient à des définitions, disons, de vocations humaines différentes, le monde de l'âme et de la vie spirituelle à travers lequel nous sommes reliés au projet du Créateur pour le monde à venir, je reviendrai sur ces analyses d'ailleurs, d'autre part le monde du corps qui nous insère dans ce monde-ci. De même, nous dit-il, à l'échelle de la nation, il y a deux vocations dans la vocation d'Israël qui finalement se réalisent, je ne voudrais pas dire tout de suite s'incarne, enfin puisque nous parlons français, dans la vocation de l'identité Joseph, qui est la vocation temporelle et qui finalement s'exprime au niveau des tâches politiques, ce terme doit être pris dans son sens le plus général, et toutes les tâches qui correspondent à l'échelle de la nation, à l'échelle du clan, de la collectivité d'Israël, à ce que sont les tendances et les problèmes et les comportements à l'échelle individuelle d'insertion dans la vie terrestre, à travers la vie biologique, la vie du corps et aussi tout le psychisme qui s'y accompagne. Ceci, c'est donc la vocation de l'identité Joseph. Mais il y a d'autre part la vocation de l'identité Yehuda, qui est celle, j'emploie un terme qui récapitule au fond toutes les vocations, engagements de l'ordre spirituel, la Torah, la nation, la Torah. La nation en tant qu'entité temporelle, la Torah en tant qu'elle est l'âme de cette nation. On pourrait avoir des vocabulaires d'approximation très divers, chacun suivant son vocabulaire culturel, mais je pense que c'est suffisamment clair jusqu'à présent. Nous sommes arrivés au début de la page 2. et je reprendrai le texte à partir de la fin de la quatrième ligne. Alors, nous allons travailler un peu avec la méthode que j'ai essayé d'employer hier, c'est-à-dire je fais une heure et demie d'exégèse, et ensuite nous aurons une interruption si vous avez des questions de compréhension ou de connaissance à poser. Alors, nous étions arrivés à un point précis de l'analyse, où le Rav nous cite deux versets, l'un qui concerne Judas, Yehuda, et l'autre qui concerne Joseph, Yosef. À partir de maintenant, je le dirai en anglais. Vous avez le premier verset qui concerne Yehuda à la fin de la troisième ligne de la page 2. Haïta, Yehuda, les Kotsu. Je vais d'abord situer très rapidement le contexte de ce verset, qui est un verset des psaumes. Ce psaume parle de l'événement important, puisqu'il est l'événement fondateur d'Israël en tant que nation, qui est l'événement de la sortie d'Égypte. Jusque-là, l'identité dominante d'Israël en Égypte, et donc c'est, vous en souvenez, le premier modèle de ce qu'on appelle dans le vocabulaire contemporain la diaspora, mais que dans le vocabulaire traditionnel on appelle l'exil, la gola ou la galoute. L'identité dominante c'est Joseph. Et nous avons toute une première partie de la définition de la messianité de Joseph, que nous avons d'ailleurs, que nous aurons à reprendre sur des points très précis, qui est cette identité d'Israël à l'extérieur de sa propre identité nationale. C'est le thème de la vocation de Joseph que nous reprendrons sur les chapitres de la Genèse que je vous ai indiqués, et où une sorte de relais va être pris au moment de la sortie d'Égypte. Jusqu'à la sortie d'Égypte, on pourrait dire que l'identité dominante d'Israël, c'est celle de Joseph en Égypte. Il y a une première ligne de la messianité de Joseph qui travaille dans ce que nous appelons aujourd'hui l'identité de la diaspora. Je vais à repenser ça assez attentivement, parce que ça nous servira aussi d'introduction à l'étude de demain soir, de la mise au point par rapport à la messianité chrétienne. Et au moment de la sortie d'Égypte, c'est Judas qui prend le relais historique que lui cède Joseph. Le verset est « Haïta Yehuda Lekotchou ». C'est à ce moment-là, que Judas devient l'être d'Israël consacré à la dimension spécifique d'Israël, là où Israël ne ressemble en rien aux autres nations, sa vocation spirituelle. Alors que, comme nous l'avons vu précédemment, au niveau de l'identité de Joseph, il y a analogie avec les autres nations. Parce que les autres nations aussi sont insérées dans l'histoire de ce monde-ci, sont insérées dans l'histoire de la vie terrestre. Haïta Yehuda Lekotchou. Je le dis, vous ne l'avez pas sur le texte, mais de mémoire, je vous rappelle le début du verset. Betset Israël Mimitsraïm, au moment où Israël est sorti d'Égypte, Bet Yaakov Me'am Noël, lorsque la maison de Jacob est sortie Me'am Noël, d'un peuple dont la langue n'est pas la langue de la sainteté. Vous allez paraphraser l'expression hébraïque, Loël, elle a plusieurs sens au niveau du vocabulaire de la sémantique, mais disons, vous trouverez dans les traductions un peuple à la langue vulgaire. Mais vulgaire, ce n'est pas une notion de vulgarité qu'il y a là, c'était le sens ancien qui vient du latin, ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un terme un peu technique, une langue vernaculaire, c'est-à-dire une langue qui sert à la communication des consciences et non pas à l'expression de la vérité qui est la langue de la révélation prophétique. Donc, Bet Yaakov et Amloès, disons d'une culture profane.